autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Antonio Fischetti.
Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver. La gravitation est sans doute le plus familier des phénomènes physiques. Dès le plus jeune âge, nous découvrons que les objets sont attirés par le sol. Et pourtant, l'attraction universelle des corps n'en finit pas de fasciner les physiciens. Il y a eu Newton qui a montré que ce sont les mêmes lois qui font tomber les pommes sur Terre et qui régissent le mouvement des planètes dans l'espace, ce qui n'avait rien d'évident. Einstein a fait de la gravitation une courbure de l'espace-temps, ce qui ouvre une vision encore plus révolutionnaire. Tout est gravitation. Elle nous fait tomber par terre et on l'utilise pour trouver la composition du sous-sol ou positionner les satellites qui nous sont si utiles. Elle permet d'expliquer aussi la fabrication de l'univers, de ses mystérieux trous noirs ou encore des étoiles sans lesquelles nous n'existerions pas. En avant pour une balade enivrante, à la fois les pieds sur terre et aux confins de l'univers, mais sans jamais perdre l'équilibre grâce à notre guide, le physicien Marc Lachaiseret. Marc Lachaiseret, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier un livre « Gravitation » aux éditions Flammarion. Livre dont nous avons deux exemplaires à faire gagner, chers auditeurs. Il suffit pour cela de vous manifester sur le site Facebook de l'émission. Donc Marc Lachaiseret, vous êtes physicien théoricien au laboratoire Astrophysique et Particules à Paris. Donc nous allons d'abord expliquer de quoi il s'agit. Vous ne faites pas d'expérience, mais vous écrivez des équations.
Oui, on écrit des équations, on essaye même de les résoudre quelquefois, mais ça n'est pas du tout la seule partie de notre travail, parce que ces équations, elles découlent de réflexions qui sont des réflexions, je dirais, conceptuelles sur qu'est-ce que c'est l'espace, qu'est-ce que c'est le temps, la matière, etc. Et c'est en se posant ces questions, comment les objets interagissent entre eux, par exemple, puisqu'on s'intéresse à la gravitation, que l'on arrive à trouver des sortes de descriptions mathématiques. Et certaines de ces questions arrivent à être formulées en termes d'équations. Et ces équations, si on arrive à les résoudre, eh bien, on va avoir la réponse à ces questions qui sont des questions physiques.
Donc, ce sont des équations qui sont basées donc à partir d'expériences, de résultats expérimentaux.
Alors,
qui ne tombent
oui,
pas
par exemple,
du cerveau.
On fait des expériences. Pourquoi ? Pour vérifier si un modèle ou une théorie qu'on a trouvée, qu'on a inventée, est valable ou non. Et selon les résultats de l'expérience, la réponse va être positive ou négative. Et si elle est négative, eh bien, on va chercher plus loin, on va chercher autre chose. Et heureusement, il y a des résultats négatifs qui font que la recherche n'est pas complètement arrêtée.
Alors pourquoi ce livre sur la gravitation ? Donc la gravitation, c'est l'attraction universelle des corps. C'est un phénomène qu'on pourrait croire connu depuis Newton, assez classique. Mais finalement, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à découvrir.
Oui, absolument. Elle est là, c'est-à-dire c'est la gravitation qui est responsable de la chute des corps autour de nous, de notre poids qui nous retient sur Terre. C'est elle aussi qui est responsable des mouvements des satellites, des mouvements des planètes, etc. Donc elle est utilisée concrètement aussi. Mais récemment, on en a parlé, disons, d'une autre manière, puisqu'on a parlé de ces objets qui sont les trous noirs, on a parlé des ondes gravitationnelles qu'on a détectées pour la première fois directement il y a quelques années. On parle de l'évolution de l'univers qui est en expansion et cette expansion qui s'accélère. Et tout ça, c'est la gravitation. Et c'est pas du tout évident au premier abord, ni même au deuxième abord, peut-on dire, que la chute des corps et les trous noirs ou les ondes gravitationnelles, c'est le même phénomène qui en est responsable.
Bien sûr, mais on va y venir un petit peu
oui,
plus
tard.
Oui,
c'est un peu ça que je voulais.
Pour l'instant, on va déjà démarrer. Voilà, on va déjà démarrer sur la perception courante quotidienne que nous avons de la gravitation et qui elle-même est trompeuse, puisque on pourrait croire que, évidemment, tous les enfants savent qu'un objet, lâché, va tomber par terre. Donc on pourrait croire que la Terre attire les corps, mais pas uniquement, c'est-à-dire tous les objets s'attirent entre eux. Et ça, c'est pas du tout évident, déjà.
La chute des corps, oui, c'est une évidence, je dirais, que tous les humains ont expérimenté depuis qu'elles existent. De penser que cette chute des corps est due à l'attraction de la Terre, c'est déjà un stade supplémentaire. Et puis de penser que la Terre attire aussi les planètes, que les planètes s'attirent entre elles, que le Soleil attire la Terre, c'est encore un stade supérieur de conceptualisation. Il a fallu beaucoup de temps. Et disons que la conceptualisation même, c'est-à-dire l'idée qu'il existe une attraction universelle qui joue dans tout l'espace et qui s'appellera la gravitation, elle est due essentiellement à Newton. Alors, Newton, comme il l'a dit lui-même, il a prononcé une belle phrase qui n'est pas de lui, mais enfin qu'il a répétée, qui est « Je suis comme un nain juché sur les épaules des géants ». Et il reconnaît évidemment que les progrès qu'il a fait faire à la physique, des progrès absolument énormes, c'est une vraie révolution, non seulement de la physique, mais de toute la pensée,
donc
des conceptions de l'univers.
Donc au XVIIe siècle. Hein.
Oui, à la fin du, enfin disons dans le dernier quart du XVIIe siècle. Eh bien, ces réflexions se fondent sur celles de ses prédécesseurs, Copernic, Galilée, même Platon, Aristote, etc., si on veut remonter plus loin. Et donc, il a, comment dire, identifié cette interaction qui s'appelle la gravitation. Et ce qu'il a montré, qui était quelque chose d'entièrement nouveau, c'est que la chute des corps sur Terre et le mouvement, par exemple, de la Lune autour de la Terre, sont dus au même phénomène.
Oui, ça, c'est pas du tout évident. Mais on va venir, disons, dans l'espace tout à l'heure. Déjà, je voudrais qu'on reste un petit peu sur Terre, puisque la gravitation sur Terre, donc ces lois, permettent de découvrir beaucoup de choses, comme par exemple la composition du sous-sol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, alors, bon, ce qui nous attire, c'est ce qu'on appelle le poids. C'est-à-dire, nous avons chacun un poids qui est très exactement l'expression de la force qu'exerce la masse de la Terre sur nous-mêmes. Alors, la masse de la Terre, comme la Terre est une sphère, elle est dirigée vers le centre de la Terre, et c'est ce qu'on appelle la verticale. C'est pour ça que les corps tombent en suivant la verticale. Bon, maintenant, notre poids, tout le monde sait, parce qu'on en a beaucoup parlé, que par exemple, si je suis sur la Lune, mon poids va changer. J'ai toujours la même masse, mais le poids va changer parce que la Lune m'attire moins fort
parce que la Terre
m'attire. Parce qu'elle est plus petite, simplement.
Plus petite, voilà,
elle contient moins de matière. Mais quand on est sur la Terre et qu'on est sur le sol, ben, par exemple, si on est en bas d'une vallée ou en haut d'une montagne, eh bien, sous nous, il y a davantage de matière qui va nous attirer. Donc, mon poids en haut d'une montagne risque d'être différent de mon poids en bas d'une vallée.
On ne pèse pas le même poids au sommet d'une montagne.
Voilà.
On pèse plus lourd au sommet d'une montagne.
On a la même masse. Alors oui, parce qu'il y a de la masse en plus, mais d'un autre côté, on est plus loin. Alors il y a des effets qui se compensent. Mais en tout cas, c'est différent. On sait calculer la différence.
Donc c'est la force qui nous attire n'est pas la même, mais notre masse est la même.
Ah, notre masse, elle est toujours la même.
La force qui nous attire, alors, est plus faible ou plus élevée au sommet d'une montagne ?
Alors, ben, justement, il y a plus de masse en dessous de nous, donc ça nous attire davantage. Mais comme on est plus éloigné du centre de la Terre, eh bien, ça va dans l'autre sens.
Ça se compense à peu près.
Ça se compense à peu près.
Oui.
Mais les différences qui sont infimes, aujourd'hui, nous avons des détecteurs qui permettent de les mesurer. Ce sont des détecteurs qui s'appellent des gravimètres, parce qu'ils mesurent très exactement la gravité. Et on a atteint une sensibilité qui est telle aujourd'hui, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que c'est des moyens assez modernes, ils ont atteint une telle sensibilité qu'on peut se servir de cela pour mesurer l'altitude à laquelle on se trouve, d'une part, ou alors ce qui peut arriver aussi, c'est que sous nous, sous le sol, il peut y avoir par exemple une masse de roche beaucoup plus dense, ou au contraire une masse de liquide beaucoup moins dense, qui de la même manière va diminuer un petit peu l'attraction de la Terre, c'est-à-dire notre poids. Et si on a un gravimètre assez sensible, on va pouvoir le détecter. Et on peut détecter comme ça, par exemple, un gisement de métal assez dense ou au contraire un gisement de pétrole ou d'eau. On peut même détecter des mouvements des corps massifs dans le sous-sol qui pourraient nous permettre de prévoir un petit peu plus à l'avance les séismes ou les mouvements des plaques tectoniques et donc,
voilà, donc les, la connaissance, les éruptions. La connaissance de la gravitation est donc fondamentale et voilà. Elle nous concerne aussi au premier plan pour détecter des ressources.
Bien que la gravitation soit considérée comme de faible intensité sur Terre, parce que notre poids, finalement, c'est quelque chose d'assez faible en comparaison des champs gravitationnels qui pourraient exister dans l'espace ailleurs, près des étoiles denses, etc. Mais il y a malgré tout des effets concrets qui peuvent être exploités dans notre vie de tous les jours.
La gravitation, c'est un phénomène tout à fait normal, comme l'explique Areski Belkacem à Brigitte Fontaine.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûlé?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique,
ouais,
suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Ah. Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais
la,
alors...
la la. La, 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 la,
moi, je voulais savoir, tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage, nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais.
La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la. Tout à fait normal, c'est l'attraction terrestre. La...
D'accord.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc.
Ouais.
On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatiguante. On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, Les membres se séparent du tronc, ouais. Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tire.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends ?
Autour de la question, nous parlons de gravitation avec le physicien Marc Lachiezeray pour la sortie de son livre intitulé justement « Gravitation ». Donc Marc Lachiezeray, nous venons d'écouter Brigitte Fontaine, Reski Belkacem qui nous parlait de la gravitation.
Toute une époque.
Oui, merveilleuse chanson. Donc de ce phénomène terrestre que nous connaissons. Mais il y a des choses qui ne sont pas si normales que ça dans la gravitation, en tout cas qui ne sont pas du tout évidente empiriquement, c'est-à-dire ce que formulait précisément Newton, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les lois qui font tomber les pommes sur Terre sont les mêmes qui régissent les mouvements des planètes. Et ça, c'est vraiment une révolution.
Oui, absolument. Mais c'est-à-dire que ce que dit Newton, c'est que la gravitation est universelle. C'est-à-dire que n'importe quel corps attire n'importe quel autre corps. Donc, la Terre attire mon crayon qui va tomber de la table, mais la Terre aussi attire la Lune. Et il y a une phrase que j'aime bien de Valérie, je cite de mémoire, le génie de Newton, c'est d'avoir montré que la Lune tombe alors que tout le monde peut voir qu'elle ne tombe pas. C'est-à-dire, elle tourne autour de la Terre, donc on a l'impression qu'elle ne tombe pas, mais en fait, ce qu'a montré Newton, c'est qu'elle tombe, c'est-à-dire qu'elle aurait tendance à aller tout droit, mais la gravitation fait que sa trajectoire est infléchie et tout ceci s'est équilibré de manière à ce que la Lune décrive une orbite à peu près sphérique. Oui.
La Lune tombe sur la Terre, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, elle finirait vraiment par tomber sur Terre.
Oui, mais ça c'est dû à d'autres effets, parce qu'il y a des effets de marée qui compliquent un petit peu la loi de Newton, parce que la Lune, ni la Terre ni la Lune, ne sont des masses ponctuelles, elles se déforment, et cette déformation, on peut dire, elle consomme un peu d'énergie, et il y a donc un peu d'énergie perdue, et la Lune va finir par tomber.
Bon. Elle va finir vraiment par tomber sur Terre.
Oh, mais rassurez-vous, il faudra attendre. Je ne sais pas si c'est des millions ou des milliards d'années, mais de toute manière, l'humanité aura disparu bien avant.
Mais
probablement.
S'il n'y avait pas la Terre, où irait la Lune ? Donc,
elle irait
tout droit
parce
dans l'espace.
Parce que justement, il y a une sorte de principe qu'on appelle le principe d'inertie qui avait été découvert, mis en évidence bien avant Newton, notamment par Galilée, qui dit que en l'absence de toute interaction, un corps va tout droit. Où est-ce qu'il pourrait aller ? Si personne l'attire à droite, à gauche, en haut ou en bas, eh bien, il va tout droit. Et donc, si la Lune ne va pas tout droit, si elle décrit son orbite à peu près circulaire, c'est que la Terre exerce une force sur elle. C'est ce que dit, en tout cas, Newton. On verra que plus tard, Einstein, par exemple, va l'interpréter d'une manière différente.
Mais en tout cas, la connaissance, avant de venir à Einstein, justement, c'est la connaissance de ces lois de l'attraction nous permet beaucoup de choses. Par exemple, de garer les satellites, hein, ces satellites si utiles dans la vie de tous les jours. Donc, dans votre livre, vous parlez de ce qu'on peut nommer les parkings à satellites. De quoi s'agit-il ?
Bon, alors, un satellite, pour qu'il soit, qu'il garde une orbite à peu près constante autour de la Terre, il faut qu'il aille à une certaine vitesse bien précise, qui est différente selon l'altitude, donc il bouge. Mais on n'a pas toujours intérêt à ce qu'un satellite bouge. Ça peut arriver, parce qu'on a par exemple envie qu'il puisse couvrir toute la Terre, toutes les régions de la Terre successivement, ou on peut avoir envie qu'il survole toujours la même région de la Terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle géostationnaire, pour pouvoir observer toujours la même région. Bon, donc ça correspond à des orbites bien précises. Mais on a aussi quelquefois envie qu'il soit d'une certaine manière fixe dans l'espace. Alors, fixe de manière absolue, ça ne veut pas dire grand-chose, mais fixe par rapport au Soleil, aux planètes, à la Lune ou quelque chose comme ça. Et on s'aperçoit, quand on calcule les attractions combinées de la Terre, du Soleil, de la Lune, qu'il existe certains points d'équilibre où ces attractions se compensent. Parce qu'il y a une attraction depuis le Soleil qui est dirigée vers le Soleil, une qui est dirigée vers la Lune, une qui est dirigée vers la Terre. Bon, il peut arriver que ça se compense. Et donc, si on met un satellite là, il ne va plus bouger. Il va rester fixe par rapport à ces astres-là. Et quelquefois, par exemple, si on veut observer le ciel lointain ou si on veut observer le Soleil, il est intéressant de placer un tel satellite dans une région comme ça. Ou par exemple, si on veut que le satellite reste à l'ombre du soleil pour pas qu'il chauffe, pour pas que l'électronique qui est à bord chauffe, on a intérêt à ce qu'il reste dans l'ombre de la Terre par rapport au Soleil, et on le met dans une position bien spéciale, et ces positions s'appellent les points de Lagrange, parce que c'est le physicien Lagrange qui les a découverts au XVIIIe siècle.
Donc il y a donc plusieurs parkings à satellites
autour de la Terre. Où il y a beaucoup de satellites en ce moment. Hein. C'est, voilà, c'est pour des raisons concrètes, on les met là-bas.
Peut-être un peu trop, mais c'est une autre histoire.
Ouais, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire. Alors, Newton, c'est une révolution, mais la physique de Newton a aussi ses limites, nous allons y venir. Mais auparavant, Marc Lachaiseraie, un petit morceau, je suis sûr que vous allez reconnaître ce morceau. Alors, petit quiz musical, Marc Lachaiseraie.
Oui, bon, Einstein à la plage, donc merci d'avoir passé.
Einstein à la plage, justement, pourquoi on l'a passé ? Parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle, justement, Einstein à la plage.
Eh oui, c'est un beau titre.
Einstein on the beach, hein, précisément,
le titre. Non, mon bouquin, c'est en français. C'est Einstein à la plage, oui. Mais bon, c'est pas le même contenu, bien entendu.
C'est pas le même contenu. Mais alors, pourquoi nous parlons d'Einstein ? Parce que on nous parlait tout à l'heure de Newton, mais quels sont les problèmes posés par la physique de Newton ?
Alors, bon, on va pas être trop long parce qu'on peut y passer des heures sinon, mais Newton introduit déjà cette interaction à distance, c'est-à-dire par exemple, le soleil agit sur la Terre sans contact, sans la toucher, sans qu'il y ait un intermédiaire entre le soleil et la Terre, ça paraît très bizarre. Bon, premier point. Deuxième point, cette notion d'espace absolu qui est dans la physique de Newton, alors là c'est un peu technique, mais ça pose des tas de problèmes aux philosophes et aux autres physiciens, à Newton lui-même d'ailleurs.
Oui, parce qu'il se disait, comment se fait-il que nous soyons, enfin que la Terre soit attirée par le soleil alors que elle est, enfin,
le soleil est si loin et qu'elle n'a aucun contact avec lui.
Et cette force, voilà, n'a pas de milieu matériel.
Ça paraît un peu magique.
Et c'est là qu'arrive Einstein.
Alors, pour ce problème et pour d'autres aussi, arrive Einstein, comme vous dites. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la physique de Newton, donc énoncée en 1687 dans les Principia de Newton, elle fonctionne extrêmement bien. Et jusqu'au début du XXe siècle, elle fonctionne extrêmement bien, des succès. Grâce à elle, on découvre des nouvelles planètes. Grâce à elle, on explique tous les mouvements dans le ciel.
Oui,
grâce
comme
à
la
elle,
comète de Halley, la fameuse comète de Halley.
Ce sont des succès. Mais malgré tout, sur le plan des idées, on sent qu'on n'arrive pas bien à comprendre comment ça se passe. Et beaucoup de physiciens, donc en commençant par Newton lui-même et beaucoup de philosophes, posent des questions à propos de tout ça. Et Einstein lui-même, à la fin du 19e siècle, était préoccupé par toutes ces questions et se dit « il faut modifier cette physique ». Et en réfléchissant, il a réussi à construire une nouvelle théorie complètement différente qui s'appelle la relativité générale. Alors, il l'a construite en deux étapes, une étape qui s'appelle la relativité restreinte en 1905, une étape qui s'appelle la relativité générale en 1915, et on ne va pas détailler tout ça, mais la relativité générale propose une conception totalement différente de la gravitation. C'est-à-dire, au lieu de dire « le Soleil exerce une force sur la Terre et cette force va dévier la trajectoire », il dit autre chose, il dit « le Soleil va déformer l'espace-temps », c'est-à-dire l'espace-temps, c'est le milieu dans lequel se trouvent tous les objets du monde, tous les objets de l'univers. Donc le Soleil va déformer l'espace-temps et la Terre va suivre cette déformation. Et quand on fait le calcul, on trouve la bonne orbite de la Terre.
Alors on ne parle plus du tout de force.
On ne parle plus
de force. On parle de déformation de l'espace-temps. Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer comme une sorte de toile avec des creux, des entonnoirs dans lesquels nous tomberions ?
Voilà, exactement. Quand on parle d'une toile avec des creux et des bosses, etc., on parle d'une surface courbée. Eh bien, l'espace-temps, ce n'est pas une surface, parce que ça n'est pas à deux dimensions comme une surface, mais c'est à quatre dimensions, donc on n'arrive pas à le visualiser, mais on arrive très bien à le décrire mathématiquement. Et ce que dit Einstein, sa théorie de la relativité, c'est que l'espace-temps, qui est le cadre dans lequel nous vivons, dans lequel nous évoluons, eh bien, cet espace-temps, il a des creux et des bosses. Bon, évidemment, il faut entendre ça à quatre dimensions, donc c'est un peu plus technique.
Oui, il faut imaginer une généralisation de cette toile sur laquelle nous serions posés.
Quand on fait des mathématiques ou de la physique relativiste, on arrive à peu près à en avoir une idée intuitive. Sinon, nous avons l'idée intuitive des choses à deux dimensions dans un monde à trois dimensions. Donc, notre esprit n'a pas l'habitude de se représenter des choses comme ça.
Mais il y a donc une relation très étroite entre la gravitation et la théorie de la relativité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que ce sont justement ces masses qui déforment l'espace-temps, qui créent la relativité et qui font que le temps n'est pas le même selon les endroits.
La relativité est une nouvelle théorie de la gravitation qui remplace celle de Newton en allant plus loin, avec une conception totalement différente, puisque la gravité ou la gravitation, c'est la même chose, ne s'exprime pas par une force, mais s'exprime par la courbure de l'espace-temps. Et donc, il y a deux volets. Premièrement, puisque l'espace-temps est courbe, les corps qui se déplacent suivent la courbure de l'espace-temps. C'est-à-dire la Terre, par exemple, pourquoi elle a une orbite elliptique ? Parce qu'elle suit la courbure de l'espace-temps. Et le deuxième volet, c'est d'où vient cette courbure de l'espace-temps ? Eh bien, ce sont les objets massifs qui vont créer cette courbure de l'espace-temps. On utilise souvent l'image d'une toile, comme vous l'avez évoqué. C'est-à-dire, si je tends une toile, comme sur un trampoline, par exemple, et je pose un objet massif, eh bien, l'objet massif, là où il est, va courber la toile. Et l'espace-temps, c'est un peu pareil. Là où il y a un objet massif comme le Soleil, eh bien, l'espace-temps est courbé. Et cette courbure, elle se propage du Soleil jusque très loin, jusqu'à la Terre, jusqu'aux planètes. Et finalement, ça répond à la question qu'on se posait. Comment se fait-il que la Terre ressente l'influence du Soleil ? Eh bien, c'est par l'intermédiaire de la courbure de l'espace-temps. Parce que le Soleil courbe l'espace-temps là où il est. Et puis cette courbure, elle se propage jusque là où est la Terre. La Terre sent cette courbure, elle la suit, et c'est ça qui est responsable de la nature de son orbite.
Est-ce qu'on peut dire que la gravitation, d'une certaine façon, contribue à la fabrication de l'univers, ou même est à l'origine de la fabrication de
si
l'univers ?
Vous voulez, l'univers, c'est cet espace-temps dont on vient de parler, avec tout son contenu. Donc l'univers, finalement, ce que dit la théorie de la relativité, et ce qui est à la base de toute notre cosmologie et de notre physique théorique, c'est que l'univers, en tant qu'entité géométrique, qu'on appelle donc l'espace-temps, il a une certaine forme, il a une certaine courbure. Et quand on fait ce qu'on appelle la cosmologie, c'est-à-dire l'étude de l'univers, on étudie cette courbure. Quand on dit l'univers est fini ou infini, on parle de la courbure de l'univers. Quand on dit l'univers est en expansion, on parle de la courbure de l'univers. Quand on parle de l'âge de l'univers, on parle aussi de la géométrie de l'univers et entre autres de sa courbure.
Mais dans votre livre Gravitation, dont je rappelle le titre, Gravitation chez Flammarion, vous parlez de la fabrication des étoiles en disant que c'est un petit peu comme un effet boule de neige, où on pourrait peut-être dire même des grumeaux qui s'agrègent autour
Absolument.
De certains points qui sont provoqués par cette gravitation étant la déformation de l'espace-temps.
Oui, oui. Quand on étudie, disons, en cosmologie, c'est-à-dire l'étude de l'univers à très grande échelle, la manière dont se sont formées les étoiles ou les galaxies, on appelle ça l'instabilité gravitationnelle, parce que ces objets, au début, n'existaient pas du tout. L'univers était rempli d'une sorte de gaz uniforme, avec des petits nuages où c'était un petit peu plus condensé. Et puis, sous l'effet de leur propre gravitation, ces nuages qu'on appelle des nébuleuses, et quelquefois on va les appeler des nébuleuses protostellaires ou protogalactiques parce que c'est elles qui vont devenir des étoiles ou des galaxies, sous l'effet de leur propre poids, elle se condense, elle s'attire elle-même, et sous l'effet de cette attirance, elle se condense petit à petit, et quand la matière se condense, dans certaines conditions, elle se réchauffe, puis à un moment, ça se réchauffe tellement, ça va atteindre des milliers ou des millions de degrés, ça se réchauffe tellement qu'il va y avoir des réactions nucléaires qui vont se déclencher, qui vont émettre de l'énergie, qui vont émettre des rayonnements, et voilà, une étoile s'est formée. C'est comme ça que se forment les étoiles, par condensation gravitationnelle qui aboutit à un réchauffement. Donc une étoile, c'est très dense au centre, c'est très chaud, il y a des réactions nucléaires, ces réactions nucléaires émettent de l'énergie, et cette énergie, elle est en partie sous forme lumineuse, et c'est pour ça que les étoiles brillent, c'est pour ça que le Soleil brille et nous envoie de l'énergie. Il faut se rendre compte, oui, que à peu près toute l'énergie qu'on a sur Terre, elle vient en fait du soleil. C'est-à-dire, le pétrole, ça vient aussi du soleil, parce qu'il y a eu de la végétation il y a quelques millions d'années. Cette végétation s'est décomposée, et voilà d'où vient l'énergie du pétrole. Donc, l'énergie des barrages aussi, c'est le soleil qui fait évaporer l'eau de la mer ou des rivières, qui retombe en pluie en hauteur, et quand ça s'écoule, ça fait de l'énergie.
Donc la gravitation nous fait tomber par terre, si nous perdons l'équilibre, mais la gravitation nous crée d'une certaine façon aussi, nous a créé, et nous n'existerions pas sans la gravitation. Mais nous parlons, nous utilisons beaucoup de mots, hein, espace-temps, force, grumeaux par exemple tout à l'heure, on peut parler aussi du Big Bang, et on se rend compte que les mots que l'on emploie sont très importants. Écoutons ce petit éclairage de l'astrophysicien David Elbaz au micro de Caroline Lachowski dans Autour de la question.
Le mot va avoir des sens multiples. Aujourd'hui, je vois dans l'étude de la naissance des étoiles, des galaxies, certains mots sont employés qui viennent, qui portent l'odeur de ceux qui les ont inventés, qui les ont nommés, et qui portent les théories de ces gens-là sans qu'on le sache, et qui influencent donc le regard avec lequel on est capable ou pas de voir les choses. C'est-à-dire que les mots portent un sens, peut-être, qui va au-delà même de ce que l'on veut dire, qu'on pense dire. Lorsque Fred Hoyle nomme Big Bang l'origine de l'univers, ce chaos primordial, il veut se démarquer de cette théorie et il reprend la recette de toutes les grandes traditions, puisque dans la Genèse, il disait que les scientifiques étaient imprégnés du livre de la Genèse, et le chaos primordial à l'origine de toute chose dans la Genèse, c'est le Toibui. Chez les Chinois, le Huainanzi, le livre du prince de Huainan, c'est le Huntun. Chez les Maoris en Nouvelle-Zélande, c'est le Kore-Kore. Chez les Peuls en Afrique, c'est le Kalakala. Et lui, il dit Big Bang. Il reprend la même recette. Kalakala, Huntun, Kore-Kore, Big Bang. Tout ça, c'est la même recette. C'est-à-dire que vous dites un mot dont le sens, la sémantique, signifie désordre, mais dont le son vous dit ordre, ordre potentiel. Et là, on voit bien à quel point on est complètement lacanien et qu'il est fondamental de savoir comment les mots portent un sens inconscient, puisqu'il a donné le nom du Big Bang qu'on a retenu, lui qui n'y croyait pas.
Marc Lachaiserey, quand vous écrivez des équations, quand vous formulez des concepts, quand vous aboutissez à des résultats, vous faites aussi très attention aux mots que vous employez.
Ah, mais c'est absolument fondamental et c'est très intéressant. Et j'appartiens à un comité de nomenclature qui dépend de l'Académie, qui dépend aussi du ministère de la Culture, je crois, où précisément on étudie les mots qui proviennent de la science, hein, les mots comme trou noir, Big Bang, étoile, quasar, etc. On étudie ces mots pour savoir s'il faut et comment les introduire dans le dictionnaire de l'Académie. Donc, il arrive qu'on discute une matinée entière sur un seul terme. Et c'est passionnant parce que, effectivement, ces mots ont tous une connotation. Je ne sais pas, quand Newton introduit la notion de force, c'est tout à fait le mot qui convient parce que la force, c'est exactement ce qui va forcer un objet à s'écarter de sa trajectoire inertielle qui serait une ligne droite. C'est la gravitation du Soleil qui force la Lune à s'écarter d'une trajectoire qui serait rectiligne pour adopter une trajectoire circulaire. Donc les mots sont très importants, tout à fait.
Et ce mot trou noir, ces deux mots trou noir que vous venez d'utiliser sont aussi fondamentaux si on parle de gravitation, puisque la gravitation, cette attraction universelle, devient extrême à l'approche d'un un trou noir, puisque c'est un objet extrêmement dense.
Alors voilà, une autre manifestation de la gravité, qui est une manifestation extrême. Alors le mot trou noir a été introduit, je crois, dans les années 40 ou quelque chose comme ça, mais on parlait avant d'astre occlus. Hein, occlus dans le sens fermé, parce que c'est quelque chose qui se referme.
Alors, rappelez-nous brièvement la définition d'un trou noir.
Oui, la définition d'un trou noir, on peut en avoir deux, parce qu'on peut considérer un trou noir comme un objet quasiment matériel, avec une masse très importante, et surtout un objet compact, mais aussi on peut le considérer comme une déformation de l'espace-temps. Les deux points de vue sont à peu près tous les deux aussi pertinents.
En tout cas, la force d'attraction devient immense.
Oui, alors on n'aime pas parler de force, hein, puisqu'on n'est plus en physique.
Si on se promène autour d'un trou noir, qu'est-ce qui va se passer?
Voilà, c'est quelque chose qui exerce une gravitation extrêmement intense, parce que c'est un objet compact, et à cause de l'intensité de cette gravitation, tout ce qui passe à portée est attiré dans le trou noir et tombe dans le trou noir sans espoir de retour. Et en même temps, la lumière elle-même, le rayonnement lui-même est attiré, donc il sort du trou noir et ne peut pas en sortir, et c'est pour ça qu'il est noir. Donc c'est un trou parce que tout tombe dedans, et il est noir parce qu'aucune lumière ne peut en sortir. Alors on a vu récemment des clichés absolument extraordinaires qu'on appelle des photos du trou noir, mais évidemment c'est un peu trompeur de dire comme ça, parce que le trou noir lui-même, on ne peut pas le voir puisqu'il n'émet aucune lumière.
Bah comment elles sont prises, ces photos?
Alors voilà, oui, alors d'abord elles sont prises par une technique absolument, comment dire, sophistiquée, que je ne peux pas développer ici, je n'ai pas le temps, mais ce n'est pas du tout un clic qu'on a fait avec un appareil photo, c'est une reconstruction à partir des données d'une dizaine de radiotélescopes répartis dans le monde entier. Mais en tout cas, l'important, c'est ce qu'on voit, ce n'est pas le trou noir lui-même, c'est la matière incandescente, extrêmement énergétique, qui est autour du trou noir, avec le trou noir qui est en ombre devant, puisqu'on ne le voit pas, c'est quelque chose qui reste noir, et qui va déformer les rayons lumineux de telle manière que l'image de cette matière qui forme un disque autour du trou noir, elle est complètement déformée, et le disque a une forme tout à fait bizarre.
Écoutons ce son produit récemment par la NASA, qui est le son, disons, la retranscription sonore d'un trou noir. Marc Lachaiseret, il n'y a pas de son dans l'espace,
non,
un trou noir ne produit pas de son, donc qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Ça, c'est un peu ce qu'on appelle de la com, parce que quand vous recevez un signal, quel qu'il soit, ce signal, en général, vous le recevez sous forme électrique, et puis vous pouvez toujours envoyer le signal électrique dans un haut-parleur, et ça va vous donner un son. Mais qui n'a rien de
qui n'a pas de sens.
Qui n'a pas tellement de sens. Oui. Sauf que, si vous voulez, nous avons l'habitude, si je veux, par exemple, vous parler d'un objet nouveau, par une fusée, je ne sais pas, je peux vous montrer une image de la fusée visuelle. Mais si je m'adresse à un aveugle, par exemple, je ne peux pas lui montrer de photos. Donc pourquoi j'enregistrerais pas la fusée quand elle démarre, etc. C'est-à-dire lui donner une information, non pas sous forme visuelle, mais sous forme sonore. Après tout, on peut traduire n'importe quoi. N'importe quelle image, on peut la traduire sous forme sonore. Parce qu'une image enregistrée dans un ordinateur, c'est une suite de chiffres. Et un morceau de musique enregistré dans un ordinateur, c'est une suite de chiffres aussi. Donc on peut les intervertir, si vous voulez.
Donc un petit coup de com' de la part de la NASA. En revanche, ce qui a de l'importance, c'est cette fameuse masse cachée de l'univers. Puisque, donc expliquez-nous pourquoi c'est un problème pour les physiciens.
Alors maintenant, depuis Newton, on a compris que les mouvements des planètes autour des étoiles dans la galaxie, des galaxies entre elles dans l'univers, sont gouvernés par la gravitation. Et on les analyse et on commence à comprendre tout ça. Sauf qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que par exemple, dans une galaxie, les étoiles vont très vite. Elles vont plus vite que ce qu'on attendrait. Donc ça ne correspond pas tout à fait aux prédictions qu'on peut faire. Pourquoi vont-elles si vite? On a l'impression que la masse de la galaxie n'est pas suffisante pour les retenir. Je vous disais tout à l'heure, c'est la masse de la Terre qui empêche la Lune d'aller se perdre dans l'espace, mais il faut que la Terre soit suffisamment massive pour le faire. Et on a l'impression que les galaxies ne sont pas suffisamment massives pour retenir les étoiles qui cheminent dedans. Elles vont trop vite. Donc, comment résoudre ce problème ? Eh bien, la réponse la plus évidente, c'est de dire la masse de la galaxie, c'est pas ce qu'on voit. Il y a bien la masse de tout ce qu'on voit, c'est-à-dire toutes les étoiles, les poussières, le gaz, etc. Mais il doit y avoir de la masse en plus qu'on ne voit pas. On appelle ça la masse cachée. Et il en faut beaucoup pour répondre à la question. Il en faut 10 fois plus. Alors, depuis un siècle maintenant, on se dit, qu'est-ce que ça pourrait être, cette masse cachée ? Donc, on a pensé, ça pourrait être des étoiles invisibles, des planètes invisibles, des cailloux en très grand nombre, du gaz. Bon, on a tout essayé, ça ne marche pas. Et on est arrivé à la conclusion que la matière, disons, ordinaire, il ne peut pas y en avoir, de la masse cachée sous forme ordinaire. Donc, peut-être que c'est sous une forme nouvelle. Alors, si on demande aux physiciens des particules, est-ce qu'il pourrait exister des particules massives ? Oui, pourquoi pas ? Le modèle physique et particules, il est pas très au point. Et après tout, si on dit aux physiciens des particules, peut-être qu'il existe une particule que vous avez jamais détectée. Ils disent ouais, peut-être. Donc, ils construisent des détecteurs, ils essayent de la détecter. Mais depuis 50 ans, on construit des détecteurs de plus en plus sensibles. On la détecte toujours pas.
Mais si on la trouve pas, alors qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, voilà. Maintenant, on commence à se dire de plus en plus que la masse cachée, c'est peut-être pas la bonne réponse. Bon, il y a des tas d'arguments qui vont aussi dans ce sens. Donc, mais s'il n'y a pas de masse cachée, qu'est-ce qui se passe ? Les étoiles vont trop vite dans les galaxies. Les galaxies vont trop vite dans les amas de galaxies,
etc. Donc, ça veut peut-être dire que les théories
sont
pas bonnes.
Donc, il y a un problème. Alors, le problème, il vient d'où ? Peut-être bien que la théorie qu'on applique, c'est-à-dire la théorie de la relativité générale, elle marche très bien à notre échelle, mais que finalement, ce n'est pas la bonne théorie.
Il faut trouver encore une autre théorie.
Peut-être qu'il faut encore trouver une théorie plus puissante que la relativité générale.
La gravitation autour de la question avec le physicien Marc Lachiezeret. Petit tour dans l'espace avec Muse, Supermassive Black Hole. La gravitation avec Marc Lachiezeret. Donc la gravitation, c'est un phénomène très connu sur Terre. Nous tombons de la chaise, nous glissons sur une peau de banane, etc. Mais il y a aussi donc des nouveautés, des révolutions permanentes en physique. Et notamment en 2016, pour la première fois, des ondes gravitationnelles ont été enregistrées. Alors, à RFI, nous connaissons bien les ondes radio, mais les ondes gravitationnelles, c'est quoi ?
Alors, c'est un peu l'analogue des ondes radio, avec quand même beaucoup de différences, évidemment. Eh bien, ce que dit notre théorie moderne de la gravitation, la relativité générale, c'est que puisque l'espace-temps peut se déformer, ces déformations peuvent se propager. Si vous déformez la surface de l'eau en lançant un caillou, ça va faire des vagues, et ces vagues, c'est exactement des déformations
comme
de la surface
toile
de l'eau.
De trampoline dont nous parlions donc tout à
Mais
l'heure.
Mais tous les milieux élastiques, vous tapez sur une barre de métal et ça va faire un choc qui va se propager à l'autre bout de la barre.
Mais dans dans l'univers, elles se créent comment, ces ondes gravitationnelles ?
Alors, quand vous avez un phénomène très énergétique qui se produit, une étoile qui explose ou deux étoiles qui se rencontrent, ben, ça va perturber la courbure de l'espace-temps localement. Et cette perturbation, elle va finalement se propager à partir de l'endroit où se produit l'explosion ou la rencontre, qui va agir comme une source d'onde gravitationnelle. Et c'est comme si vous lancez un caillou dans l'eau. Cette perturbation de la surface, non pas de la surface de l'eau, mais de la courbure de l'espace-temps, elle va se propager jusqu'à nous. Et Einstein a eu cette idée dès la première décennie du XXe siècle, dans les années 1910. Alors ensuite, il a dit, ben non, c'est pas possible, et puis si, c'est possible, et puis ses collègues ont dit, oui, ça marche, non, ça marche pas. Bon, il y a toute une histoire.
Et il n'y croyait pas, vous dites, hein, dans votre
voilà,
livre.
Voilà, hein. Au début, donc, il n'y croyait pas, puis il assez... a cru, et il a changé d'avis.
D'ailleurs, vous le dites plusieurs fois, c'est assez étonnant, puisque de découvrir que Einstein aussi pouvait se tromper, hein, ça
ah,
c'est...
Mais tout le monde peut se tromper. Il s'est trompé plusieurs fois. Il fait des petites erreurs. Il les corrige. Et il y a une phrase que j'aime bien de Samuel Beckett qui dit essayez, puis échouez. Essayez encore, échouez encore, échouez encore, mais échouez mieux. J'adore cette phrase, mais bon, voilà, on peut appliquer ça à
bien
Einstein,
sûr,
à Newton, à tout le monde.
C'est
tous
la
ceux
quête
qui,
de,
voilà,
de la physique, de
qui,
la recherche
qui n'a jamais échoué,
scientifique. Voilà. Alors vous, précisément, vous travaillez sur la physique quantique. Alors on va terminer l'émission là-dessus, puisque oui, la physique quantique, c'est la physique des particules de l'infiniment petit. La gravitation, a priori, on pourrait se dire qu'elle est surtout visible, elle se manifeste surtout sur des gros objets, des planètes, des étoiles. Alors comment vous arrivez à relier les deux?
Oui, bah justement, c'est parce que quand on fait de la physique aujourd'hui, bon, en simplifiant beaucoup, quand on s'intéresse à la navigation spatiale, etc., à l'astronomie, à la cosmologie, on s'intéresse à la gravitation. Quand on essaye de construire des ordinateurs, des microprocesseurs, des lasers, on fait de la physique quantique à la petite échelle, ou quand on fait de la physique des particules. Bon, mais en fait, ces deux théories sont exprimées de manière tellement différente que finalement, elles sont incompatibles. Or, le monde, bah voilà, on vit dans un monde qui est unique, unifié. C'est ce qu'on appelle l'univers, il n'y en a qu'un. Donc, il ne peut pas y avoir deux manières différentes de le décrire qui sont en opposition. Donc, la plupart des physiciens, ça date depuis Einstein à peu près, cherchent à réconcilier la physique quantique avec la gravitation. Il y a des tas de propositions qui ont été avancées dans ce sens-là. Mais une des propositions, c'est de dire, bah, finalement, la gravitation est aussi... doit aussi être décrite de manière quantique comme le reste de la matière et des interactions, mais on ne s'en est pas encore vraiment aperçu et on ne sait pas comment faire cette description. Et on peut dire que depuis Einstein, il y a une grande partie des physiciens théoriciens qui essayent de se dire comment avoir une description quantique de la gravitation. À ce moment-là, ça ne serait plus la relativité générale, la théorie de la gravitation, mais ça serait une nouvelle théorie qui s'appellerait la gravité quantique ou la gravitation quantique. Et beaucoup de chercheurs cherchent une théorie de ce genre. J'ai un peu travaillé là-dessus pendant quelques années. Mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres chercheurs qui, eux, disent non, c'est pas la peine de quantifier la gravitation. Il faut arriver à la fusionner avec la physique quantique d'une autre manière. Donc, sur ce sujet, on est dans une très grande incertitude. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est très vivant, c'est une recherche qui est très vivante. Gravité quantique ou gravité non quantique, en tout cas, il faut réunifier ces deux volets de la physique d'aujourd'hui, qui sont la relativité générale et la physique quantique.
Bon, en tout cas, vous y contribuez très bien et je conseille aux auditeurs donc votre livre « Gravitation » aux éditions Flammarion, dont nous avons deux exemplaires à gagner si vous vous manifestez sur le site de Autour de la question. Donc pour ce voyage, les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles, grâce à vous, nous avons toujours gardé le cap. Marc Lachaiseraie, merci.
Merci, au revoir.
Pour réécouter Autour de la question, rendez-vous sur l'application RFI Pure Radio et sur toutes les plateformes de podcast.
C'était Autour de la question « Pourquoi la gravitation ?» avec Thibaut Baduel à la réalisation et Raphaël Pluskva en coulisses. Restez ouverts et curieux dans quelques instants. Les infos sur RFI, la radio mondiale.